Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, passagem de nível. Neste domingo, dia 25 de fevereiro, que vai em mente, eleições legislativas antecipadas em Portugal, será dia 10 de março. Hoje começa a campanha eleitoral oficial. Connosco vamos ter o cabeça de lista do LIVRE para o Círculo da Europa, Tiago Correia. 8 de março de 2024, greve feminista, um apelo lançado por dezenas de associações em França, com apoio de partidos de esquerda. É que tu te portes bien, uma peça de teatro radiocénica criada na base de aerogramas de um soldado durante a Guerra Colonial. Falaremos igualmente do colóquio de pobreza, histórias, representações e artes que decorre nos dias 27 e 28 de fevereiro. E finalmente, o concerto Cantadores de Paris, ou como quem diz, o Cantalin de Jeanne, sábado dia 2 de março no Teatro de Lanoue em Monterrey. Para já vamos até à Inglaterra. Tiago Correia, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, tudo bem. Muito obrigado pelo convite.
Ora, para vocês aí ainda é bom dia, com efeito.
Ainda é bom dia.
São 11 horas. Ora, precisamente, reside no Reino Unido, candidato, como eu disse, pelo LIVRE no Círculo da Europa, e começamos talvez por uma questão mais candente e faz parte das vossas propostas, concretamente, está na página 51 do vosso programa, defender o ensino de português no estrangeiro. Concretamente, o que é que o LIVRE propõe?
Logo à partida, o ensino português está bastante presente naquilo que é com a diáspora portuguesa. Nós lutamos por o acesso a todas as crianças, jovens imigrantes e lusodescendentes, um ensino português gratuito, qualidade e público. Aliás, fizemos um comunicado de apoio público à petição português para todos e, inclusive, participámos na redação dela e depois foi entregue também junto à Assembleia em 2022. Logo à partida também estávamos de corrigida aquilo que é a cobrança de propinas a crianças e jovens portuguesas por ensino português. Como é óbvio, não achamos que seja sequer constitucionalmente que devia ser aceito.
Sim, Tiago Correia.
Estou.
Sim, há pequeninos cortes no telefone. Ora, vocês defendem precisamente, entre outros, há que distinguir o ensino de português como língua estrangeira do ensino de português como língua materna. Porque há muitas pessoas que pedem português como língua materna. Ora, tendo em conta jovens de origem portuguesa que vivem no estrangeiro ou que nasceram no estrangeiro e, sobretudo, bom, língua materna é uma espécie de funil, enquanto que língua dita internacional é uma grande abertura, não?
Aqui o grande propósito é trazer, abrir o acesso a mais pessoas e lá está proporcionar esse tal serviço de qualidade, gratuito e aberto a tudo aquilo que é, a todas as crianças e jovens imigrantes e lusodescendentes.
Tiago Correia, temos problemas com o telefone, aparentemente há cortes.
Ok, eu vou tentar meter numa situação mais privilegiada, dê-me um segundo.
Com certeza. Bom, estamos em direto com Londres. Bom, as altas tecnologias às vezes também falham e vamos tentar precisamente restabelecer o contacto com Tiago Correia. Bom, ainda continuamos a ter dificuldades, talvez esteja ao lado de uma janela. Estamos a falar da questão do ensino de português no estrangeiro e lembramos igualmente no que diz respeito a estas eleições, endereçamos convites aos candidatos pelo Círculo da Europa de iniciativa do UIL, Nós Cidadãos, Nova Direita, igualmente chega para ver se podemos ter precisamente no próximo dia 3 de março, e dia 3 de março vai ser, digamos, o último dia que podemos fazer entrevistas neste programa Passagem Nível, na medida em que há que não esquecer que as eleições decorrem dia 9 e dia 10 de março no que diz respeito aos consulados. Poucas pessoas fizeram o voto presencial, de maneira que vai ter que ser o voto por correspondência. Penso que Tiago Correia já está connosco novamente.
Eu espero que sim.
Bom, até agora, no que diz respeito ao ensino de português, e talvez uma resposta sim ou não, porque é que o ensino de português do estrangeiro não deve passar do Ministério das Relações Estrangeiras para o Ministério da Educação. Não deveria ser o Ministério da Educação que deveria se ocupar desta questão, sim ou não?
É muito difícil dizer sim ou não, porque é uma situação muito mais complicada do que isso. Na realidade, devia ser uma grande parceria entre aquilo que são os dois grandes ministérios daquilo que é o Governo. Uhum. O ensino vai ter sempre uma alta ligação ao Ministério da Educação, não só pelo programa, mas também pela disponibilização de professores e de conteúdo programático e tudo isso, relativamente àquilo que são as nossas comunidades portuguesas. Ora, o Ministério dos Negócios Estrangeiros acaba por ser, neste momento, o Ministério que trata com aquilo que é as nossas comunidades portuguesas. Portanto, na realidade, tinha que ser uma cooperação entre os dois.
Pois, tinha que haver uma espécie de horizontalidade nessa questão.
Exato.
As questões relativas às comunidades estivessem em Conselho de Ministros, talvez facilitaria a mesma coisa. Ora, voltamos aos consulados, que é um bico de obra. É verdade que nós aqui na Europa, entre aspas, estaríamos mais privilegiados, ainda que vocês em Inglaterra têm problemas enormes, como tiveram em Manchester e não só. Agora fala-se muito do consulado virtual. Como conciliar o virtual e o presencial a nível consular?
Na minha opinião, temos que fortalecer aquilo que é, logo à partida, toda a rede consular. Uhum. Temos pessoas a viver muito longe dos consulados, temos países ainda maiores, como França, inclusive na Alemanha, onde para ir a um consulado tem que viajar mais de 4 horas. Eu, felizmente, vivo ao pé do consulado de Londres, a uma hora de distância, e isso acaba por não ser um problema para mim, mas vejo em tantas outras pessoas com quem falo que existe uma grande distância a percorrer. O consulado virtual seria o ideal para colmatar algumas falhas que já existem dentro daquilo que é a rede consular. O grande problema é que houve um grande investimento para o consulado virtual e eu pessoalmente ainda não o consegui usar. Não sei se sou eu que estou a ser mau, mas na realidade não consegui ainda utilizar. Tanto que, por exemplo, quando tive que fazer a minha renovação do passaporte o ano passado, saiu-me mais fácil e mais barato ir a Portugal durante uma semana fazer a renovação de passaporte no Campos da Justiça do que propriamente fazê-lo num consulado, porque eu estava já desde dezembro de 2022 até perto de março de 2023 a tentar ter uma marcação para poder fazer o passaporte. Ou seja, existe ainda que colmatar muitas dessas faltas. É necessário mais pessoal, é necessário mais pontos para que as pessoas consigam usufruir daquilo que é ser cidadão português.
Aliás, as questões que estamos a falar agora, consulados, a questão do ensino português, tudo isso, bom, existe o Conselho das Comunidades Portuguesas. É um órgão consultivo, a lei relativamente a este CCP foi alterada, mas vocês consideram que é necessário reformar o Conselho das Comunidades Portuguesas de uma forma mais ambiciosa do que agora?
Sim, é necessário tornar o Conselho das Comunidades Portuguesas faz pareceres sobre aquilo que é, e vai investigando, vai falando com as pessoas, vai arranjando pareceres do que aquilo que é para melhorar as comunidades portuguesas. O que nós achamos que poderia ser feito é tornar esses pareceres, pelo menos, muito mais vinculativos do que na realidade são. Porque neste momento não acaba por ser só uma recomendação, uma sugestão, que vai diretamente para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e para o Governo e para outros partidos que queiram usar, não é só restringido a isto, mas na realidade o que acaba de acontecer é que muitos destes parceiros acabam por simplesmente passar ao lado daquilo que é a solução governativa em Portugal. É necessário tornar mais vinculativas aquilo que são os parceiros do Conselho das Comunidades Portuguesas, de forma a conseguirmos, assim, estarmos muito mais próximos daquilo que é a realidade das propostas mais próximas, que é a realidade das comunidades portuguesas, para podermos melhorar.
Aliás, vocês propõem mesmo a torná-lo afeta à presidência do Conselho de Ministros.
Exato. E lá está, aqui inclui aquela parte que eu estava a querer mais indicar. Eu sei que é muito difícil fazê-lo neste sentido, já tive conversas inclusive com o antigo presidente das comunidades portuguesas, mas torná-lo quase como um poder executivo, ou seja, não necessariamente ter um poder executivo, mas ter quase esse poder e ter o orçamento para poder, inclusive, executar em algumas das propostas que eles próprios propõem.
Ora, há outro problema que surgiu recentemente, há quem diga que sim, há quem diga que não, o Governo desmente, diz respeito ao acesso ao SNS, o Serviço Nacional de Saúde, pelos imigrantes. Aparentemente, os imigrantes teriam que pagar, depois, com a devida fatura, nos países onde residem e trabalham, serem reembolsados. Vocês já se debruçaram sobre a questão?
Ainda não atacámos essa situação, para ser completamente honesto, mas, por exemplo, já estamos a atacar e há de sair em breve um comunicado sobre não só a perda dos votos que das pessoas que na renovação do cartão não foi perguntado para manter o recenseamento no estrangeiro, e também, por exemplo, aquilo que foi para a maior parte dos órgãos de comunicação social residentes que faziam que serviço nas comunidades, que são no estrangeiro, a perderem o direito da publicidade institucional relativamente às eleições legislativas, como aconteceu, por exemplo, com vários jornais dentro daquilo que é na nossa diáspora portuguesa.
Aliás, houve mesmo um voto, bom, não era vinculativo, no Parlamento, precisamente para falar das eleições, nada chegou aqui à Rádio Alfa, não fomos os únicos. Ora, vocês estão bastante atentos à política de imigração a nível da União Europeia. Normalmente aqui, sobretudo aqui em França, vocês falam que a nível da União Europeia, sobretudo na França, há retrocessos relativamente a esta imigração, e vocês dizem mesmo, o livro repudia firmemente as propostas aprovadas na Assembleia Nacional de França, e que aparentemente, bom, é a extrema-direita que está por trás disso, mas é um problema que não diz respeito só à França.
Assim, na realidade, a imigração não devia ser diabolizada. Há coisas positivas sobre a imigração, há coisas negativas sobre a imigração, mas na realidade não devia ser diabolizada. Aquilo que está a acontecer, a extrema-direita está a tentar apontar para a imigração como aquilo que era todos os problemas do país, muito semelhante àquilo que era nos judeus, na Alemanha nazi, estou a fazer um exagero única e exclusivamente para mostrar o quão ridículo é dizer que é o único problema dos imigrantes. Eu sou imigrante no Reino Unido. Há muitos portugueses que são imigrantes na França. Acho que toda a gente consegue perceber que aquilo que está a acontecer neste momento e que está a acontecer também num panorama nacional, esta tipolização daquilo que é a imigração, vai muito contra quase um terço daquilo que são os portugueses que estão a sair no estrangeiro. Ora, eu acho que não faz sentido nenhum estar a dizer que os portugueses são bons imigrantes e que outros são maus imigrantes. Imigração é uma coisa que acontece no mundo inteiro, muitas vezes até é abraçada pelo mundo inteiro e tem benefícios, não deverá ser idealizada como ninguém.
Sim, agora, efetivamente, Portugal tem mais de metade da sua população imigrante e, como já é hábito há anos, os imigrantes são sempre o bode expiatório. Uma última questão, e tem a ver com as eleições, com o voto. Precisamente o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, alertou para o risco real de a democracia em Portugal se perder e para a necessidade do amadurecimento dos partidos de esquerda. Há um perigo, porque finalmente vai-se festejar, celebrar os 50 anos do 25 de Abril. O que é que pode acontecer com as eleições do dia 10 de março?
O que nós estamos a presenciar em Portugal e tantos outros países na Europa, é um crescimento daquilo que é extrema-direita. Nós vemos em países como a Hungria, em que o Viktor Orbán, aliás não vou estar a repetir aquilo que o Itávar já disse no debate contra o Chega, mas um grande amigo ou um grande fã de André Ventura, vemos, por exemplo, a limitação de liberdade de imprensa, vemos retrocesso naquilo que são os direitos LGBTQIA+, ou seja, temos um ataque àquilo que é a democracia que nós tanto lutámos por conseguir, e em Portugal acaba por ter em base o mesmo tipo de ideias. O Chega não deixa de ter o mesmo tipo de ideias, o mesmo tipo de base do que tinha outros políticos, como Vítor Orbán, etc. Nós temos que, simplesmente, olhar para aquilo que nós podemos fazer de melhor. A democracia começa com uma introspeção. Daí o LIVRE ser sempre um partido bastante aberto, termos uma bastante horizontalidade dentro do partido, com vários órgãos, sempre eleitos democraticamente. O nosso programa é feito em congresso e convidamos outras pessoas a participar, desde que se inscrevam e proponham. Eu não vejo isso noutros partidos. Portanto, se há algum partido que defende a democracia de cima a baixo e tem sempre o defendido, neste momento, eu acredito que seja o livro.
Tiago Correia, muito obrigado. Relembro a cabeça da lista do livro pelo Ciclo da Europa Imigrante na Gama, que tenha no United Kingdom. Obrigadíssimo e em dia 10 há que votar. Muito obrigado.
Bom, obrigado.
Merci. On passe à toute autre chose. 8 mai 2024, grève féministe, ni plus ni moins. Avec nous, une syndicaliste, co-secrétaire de l'Union syndicale solidaire Paris, Violette, bonjour.
Bonjour, donc c'est le 8 mars, pas le 8 mai.
Non, 8 mars, oula. 8 mai, ça me fait rappeler une chanson.
C'est ça. Ouais. Voilà. C'est autre chose le 8 mai.
Voilà, ouais. Alors, comme d'habitude, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Une question annexe, pourquoi uniquement le 8 mars et pas pendant les 365 ou 366 jours par an?
Alors, nous, c'est ce qu'on revendique. On a un slogan qui est le 8 mars, c'est toute l'année. C'est la défense des droits des femmes, c'est toute l'année. Mais l'ONU a instauré une journée mondiale, donc c'est passé sur cette journée mondiale avec plein de, il y a plein d'histoires derrière. Pourquoi cette date-là ? Il y a des histoires de grève de femmes en Russie ou grève des femmes aux États-Unis. Enfin voilà, il y a plein de mythologies derrière, mais c'est essentiellement une date due aux socialistes allemands. Avant la Seconde Guerre mondiale, voilà. Donc Clara Zetkin, pour être précise, voilà, qui a instauré cette date de mobilisation pour la première fois.
Alors l'appel à cette grève féministe du 8 mars, c'est pour faire face aux attaques du gouvernement des droites extrême droite partout. Les femmes résistent. La démocratie est en danger, notamment le statut de la femme comme citoyenne.
Alors, on peut voir des reculs dans des endroits où on peut considérer que c'est une démocratie. On a vu aux États-Unis la remise en cause du droit à l'avortement. Est-ce que ça provoque derrière ? Ça provoque des morts, ça provoque des drames, tout ça. Donc, on voit que les droits des femmes sont toujours les premiers remis en cause. On a pu le voir en Russie, on a pu le voir en Pologne, où, pareil, le droit à l'avortement a été un des premiers, attaqués contre les droits civiques. Donc, effectivement, oui, les droits des femmes, c'est faut être toujours vigilante là-dessus parce que c'est jamais des droits acquis. Donc c'est, il faut, même si on les a, on se bat pour. Et après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, même dans notre pays, en France, on peut considérer que l'égalité, on l'a toujours pas. On l'a toujours pas dans nos salaires, on l'a pas dans la santé, on l'a pas pour plein de choses. Donc voilà, on se bat pour les femmes dans le monde et on se bat aussi pour en France.
Alors justement, en France, récemment, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, a lancé un appel, il n'était pas déguisé, hein, « Faites des enfants, faites des enfants ». Mais qu'est-ce qu'on fait du droit aux femmes d'être maîtresse de son corps ?
On arrive jaune hein, sur le réarmement citoyen, comme on dit.
Voilà, oui.
Parce que voilà, c'est en gros, on a... un petit peu un revival de fête des enfants pour réarmer la nation pour la guerre. Enfin, c'était un peu bizarre quand même. Et effectivement, c'est mais le droit des femmes à disposer de leur corps aujourd'hui, il est remis en cause dans les fermetures de centres d'IVG, dans les fermetures de maternité, y compris dans la pénurie de médicaments où la molécule pour la pilule abortive était en manque, au même titre que le Doliprane l'année dernière. Donc, il y a des endroits où les femmes ne pouvaient plus avorter aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, oui, il est... c'est remise en cause déguisée et en plus une petite pression pour oulala, attention, faites des enfants sans tenir compte d'aujourd'hui de pourquoi est-ce qu'on, au-delà de la volonté ou pas d'avoir des enfants, ce qui est la première chose, mais aujourd'hui il y a la question dans quelles conditions on fait des enfants. On peut on est payé moins, c'est on peut perdre son, on n'a pas de mode de garde. On n'a pas de mode de garde publique, on a les logements, etc. Et après, on pourrait aussi rediscuter de la question écologique. Mais oui, il peut se mettre champion du droit à l'avortement avec la question de la constitutionnalisation. Mais de fait, on revoit un revival du retour un peu travail famille patrie quelque part.
Il faut dire que la proposition du gouvernement, parce que ça vient de la droite du Sénat, c'est pas un droit, hein, c'est une liberté. Donc il y a une nuance et la sémantique.
Elle est énorme.
Voilà. De la sémantique. Bah non,
c'est... Oui. Bah, ça veut dire si c'est pas un droit, mais pas de moyens. Une liberté. On a aucune obligation de mettre des moyens. Donc ce que je vous disais sur les fermetures de centres d'IVG, il y a aucun problème si c'est qu'une liberté. On vous la laisse. allez-y, on vous laisse cette liberté, débrouillez-vous avec et trouvez les moyens. Aujourd'hui, on a autant de femmes qui vont avorter à l'étranger qu'avant la loi Veil. Ça marche sur la tête quand même.
Alors, il y a une des priorités, je reviens toujours à notre cher président, Emmanuel Macron.
Oui.
Ça a été une de, il disait que c'était une priorité de son quinquennat, c'était le premier, maintenant c'est devenu aussi pour le deuxième, c'était de lutter contre les violences sexuelles et également, et pas seulement, et physiques contre les femmes. Il faut dire qu'en France, il y a plus d'une centaine de femmes qui sont assassinées par les conjoints ou ex-conjoints, copains ou ex-copains et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe à leur priorité? Elle est passée où, la priorité?
Ça, on se demande, mais comme beaucoup de des fois, on n'a pas très envie d'être la priorité de ce gouvernement, mais en plus, on peut considérer qu'il y a encore plus de féminicides si on considère en plus toutes les femmes qui meurent parce qu'elles sont femmes. Voilà, c'est, aujourd'hui, il y a des agressions par conjoint et ex-conjoint, mais aussi parce qu'on est femme. Et donc on meurt aussi à cause de ça en France. Et là, il y a eu des mesurettes de fait, mais aucun moyen mis dessus. Nous, ce qu'on réclame, c'est 3 milliards. C'est 3 milliards d'argent en public pour former, pour éduquer, pour légiférer, pour mettre en place des tribunaux. Pour voilà, aujourd'hui, on parlera même pas de la difficulté à porter plainte. On a pu voir de toute façon, il faut complètement éduquer cette société. On a pu voir ce qui s'est passé avec l'affaire Godrèche. Où vous voyez une jeune fille de 14 ans à la télévision avec un mec de 40 ans et que ça ne dérangeait personne, qui était interviewé par des journalistes et ça ne dérangeait personne. Enfin, on est dans une société où aujourd'hui, on a un ministre de l'Intérieur qui était accusé de viol et qui a pu rester au gouvernement. Enfin, il y a une démonstration qui est faite que d'affichage et pas dans les moyens et pas dans les faits.
Mais ça concerne les violences faites aux femmes, on a un bon exemple de lutte contre ça, c'est l'exemple espagnol. Ils ont mis de l'argent sur la table.
Et ils ont mis de l'argent sur la table, ils ont formé, ils ont éduqué, ils ont mis de la répression aussi. Et du coup, les chiffres des féminicides ont chuté drastiquement. Alors que c'était des chiffres qui étaient énormes là-bas. Et aujourd'hui, y en a nettement moins, il y en a toujours. Mais il y en a nettement moins, il y a une vraie éducation. Et aujourd'hui, par ailleurs, on voit que le 8 mars en Espagne, c'est un vrai 8 mars de grève où vraiment tout s'arrête.
On va appeler votre appel à la grève, c'est bien concret, des choses bien concrètes. Mais vous avez parlé de l'éducation. Alors, je vais faire l'avocat du diable. Qui c'est qui éduque les garçons, les fils? Qui éduque? Qu'est-ce qui se passe?
Oui. C'est la société aussi. Enfin, les parents sont pas toutes puissantes, les mères sont pas toutes puissantes. Enfin, faut arrêter de mettre la responsabilité sur le dos des femmes, qui par exemple, souvent, c'est elles qui ont les temps partiels les plus précarisés, c'est elles qui vont être dans les métiers féminisés, qui ont des horaires atypiques, type le nettoyage, infirmière, etc. Il y a la question de la société, l'accessibilité, la question du porno, la question de l'école, la question des livres, la question des séries télé. Enfin, c'est pas, on peut pas mettre la responsabilité que sur le rôle des parents. Et en plus, dans ce truc-là, on met la responsabilité sur le rôle des mères, même pas sur le rôle des pères. Hein. Ça va être la faute des mères de pas avoir éduqué leur enfant.
Non, mais c'est, vous me comprenez bien.
C'est l'avocat du diable.
Oui, tout à fait.
En fait, c'est l'ensemble de la société qui fait cette éducation. Et c'est aujourd'hui, quand voilà, on aura, effectivement, ça y est, on arrête de glorifier un mec qui sort avec une gamine, un mec de 40 ans qui va sortir avec une gamine de 14 ans. Mais aujourd'hui, on a des gens qui ont grandi avec cette image-là. Donc l'éducation est un travail de longue haleine, mais il faut la commencer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit les moyens qui sont donnés à l'école, la formation qu'on offre, une formation par exemple antisexiste qu'on pourrait offrir aux profs, elle est pas faite. Cette formation continue qui devrait être, on n'arrive pas à donner les moyens aux profs de le faire. Et de toute façon, on leur donne pas les moyens de faire leur job au départ.
En principe, il devrait y avoir trois jours d'éducation sexuelle.
Non, je rigole, j'ai un enfant de 15 ans. Je pense qu'il a fait une journée au collège. Voilà.
Quand on voit qu'il n'y a pas d'infirmière scolaire, avec tout ça se pose, et surtout pour les jeunes filles, quand elles ont les règles et tout ça, il y a tout un tas de choses qui passent complètement à côté, et ça n'empêche que l'éducation, c'est la base de tout.
Oui, non, mais c'est... de toute façon, on le dit bien pour tout, hein. C'est sans éducation, on va nulle part. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un poste qui est sacrifié par ce gouvernement et depuis et par les gouvernements précédents. Enfin, on peut pas vivre. Il y a de nombreux de postes qui sont pas mis en place, qui sont pas remplacés. Et moi, je vois. Enfin, on a changé de ministre de l'Éducation, mais quand le ministre de l'Éducation, la panacée de l'éducation, c'était Stanislas. Excusez-moi, avec des propos tenus par des enseignants homophobes, sexistes, etc. Et c'est ça pour elle l'éducation. Ça fait un peu peur sur les moyens qui sont donnés à l'éducation nationale aujourd'hui.
Et d'ailleurs, quand elle est allée dans une école publique, elle s'est étonnée que tous les élèves avaient des baskets, ils n'avaient pas des chaussures en cuir. Bon, alors, il y a quelque chose de très important, c'est l'égalité salariale. Alors, quand on voit l'emploi précaire, à mi-temps, etc., l'essentiel sont des femmes qui travaillent. Un certain nombre de secteurs très importants, la santé, l'aide familiale, etc., etc., sont les femmes, sont des salaires qui bon, impossible, ils étaient en première ligne, hein, c'était qu'ils étaient en première de cordée. Mais au point de vue salarial, il y a des lois qui existent, qui exigent qu'il y ait une égalité salariale. On est loin de ça?
Alors, d'aujourd'hui, en France, on a 26% d'inégalité salariale, privé-public confondu. Déjà, de base, en plus, les métiers, les temps partiels, c'est majoritairement des femmes. Les métiers les plus précaires, c'est majoritairement des femmes. Donc, après, il y a cette base-là. La première loi sur l'égalité salariale, c'est en 72. Voilà, pour vous dire quand même, on en met un petit peu de temps avant d'avoir... c'est un truc qu'on a... Il y a des trucs que les gouvernements ont mis plus de temps, moins de temps à mettre en place, genre la réforme des retraites. Ça, ils ont un peu plus de mal à appliquer la loi là-dessus. Parce que depuis, on en a eu plusieurs. Et après, sur ce que vous disiez, sur les métiers du soin, on va dire, on appelle ça les métiers du soin, nous, ce qu'on réclame, c'est une revalorisation salariale. Parce que c'est des métiers aujourd'hui, par exemple, pour être infirmière, c'est un bac plus 3. Ingénieur, c'est la même chose. Ingénieur, c'est majoritairement masculin. Infirmière, c'est majoritairement féminin. On commence pas avec la même grille de salaire. Et on va pas me dire que être infirmière c'est pas compliqué comme métier, ça demande pas un minimum de connaissances et de savoir-faire qui sont enseignés, qui sont à un niveau bac plus 3 et qui devraient être reconnus salariément au même titre qu'un ingénieur qui débute à bac plus 3. Et donc c'est ça qu'on réclame aujourd'hui, c'est cette revalorisation de ces salaires qui sont majoritairement féminisés.
Un autre problème, c'est quand une femme elle est enceinte. On a vu récemment une mère, bon, elle est enceinte, elle a dû quitter son mandat, c'était maintenant du maire adjointe, pour assumer sa grossesse. Il y a le problème des femmes qui allaitent, etc. Tout un tas de choses comme ça, c'est concrète. Alors, c'est pas une spécificité. Oui, c'est une spécificité de la mère, de la femme, mais ça concerne toute la société. Et là, il y a rien n'est fait ou très peu.
Voilà, ça c'est faire aussi, c'est l'organisation du travail aussi. C'est une organisation du travail. On a quand on a des personnes en situation de handicap, on adapte le travail. Quand une personne doit allaiter, ça veut dire des salles de repos, des salles avec un évier pour nettoyer les instruments où la personne puisse tirer son lait pour pouvoir allaiter. C'est la question des services publics. C'est la question d'avoir un vrai service public de petite enfance qui prenne en charge ça. C'est aussi de comment on conçoit le temps au travail. Voilà, c'est aujourd'hui ce qui est bien en France, c'est de rester le plus tard possible, de faire les journées les plus longues possibles. Mais ça, c'est notre vision du travail. Alors que par exemple, si on va dans les pays du Nord, c'est très mal vu ça, parce que ça veut dire qu'on sait pas s'organiser. Et c'est très mal vu de pas rentrer chez soi, s'occuper de son enfant. Et c'est très mal vu, par exemple, pour les pères de ne pas prendre leur congé parental. Donc voilà, il faut changer notre vision de la société, mais il faut, dans un premier temps, ça va prendre plus de temps, on va dire, mais dans un premier temps que les lieux de travail se mettent un peu aux normes et permettent aux femmes de s'organiser sans être pénalisées, sans devoir quitter leur emploi, sans devoir arrêter de travailler.
Alors, Violette, on parle des 3-8. En principe, 3 heures de travail, 3 heures de loisirs, 3 heures de sommeil. Mais les femmes, les 3-8, c'est pas ça?
Non, en général, non, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est tâche ménagère et ce qu'on va appeler maintenant, ce qui est un terme qui est de plus en plus admis, c'est la question de la charge mentale. Parce qu'on rentre du boulot et en fait, après, il y a aussi faire la cuisine, le ménage. Si on a des enfants, faut les laver, faut les coucher, faut surveiller des devoirs aussi. Mais le problème, c'est que c'est pas que après le boulot. Tout ça, c'est aussi pendant qu'on est au travail. Parce que pendant qu'on est au travail, il faut qu'on fasse sa liste de courses, qu'on voit où on en est, qu'on réfléchisse à merde, qu'est-ce qui me reste dans ma cuisine, il faut que je fasse les courses avant de rentrer. Est-ce que j'ai bien pris les rendez-vous chez les médecins? Est-ce que je suis à jour pour les vaccinations des gamins? Prendre les cadeaux, par exemple, on sort de Noël, faire tous les cadeaux pour toute la famille, y compris la famille du conjoint, parce que c'est souvent madame qui s'occupe du cadeau pour sa belle-mère. Donc, etc. Enfin, voilà, c'est, on n'a jamais de temps pour des loisirs, on n'a pas le temps de prendre soin de soi, on n'a pas le temps aussi de pouvoir se cultiver, travailler par exemple dans l'administration, pour dire ça, on manque de temps du coup pour travailler des concours, pour pouvoir progresser, pour pouvoir changer de grade, etc. Donc c'est aussi une inégalité sur l'occupation de son temps.
Mmh. Oui, et sans oublier quand l'enfant est malade, l'école appelle la maman, oui. N'appelle jamais le papa. C'est une autre affaire. Ouais. Alors Violette, concrètement, grève, Louis, mars 2024, grève de travail. Grève de tout ce qui est travaux domestiques et de consommation aussi.
Oui. Oui, parce que c'est, on n'a pas besoin d'aller. C'est un jour où on se prend du temps pour soi et la consommation c'est devoir aller faire les courses. C'est l'obligation en fait de cette société de consommer pour exister. Donc se dire on s'arrête ce jour-là, on prend le temps. On se mobilise, on fait des AG, on discute avec les amis, la famille, etc. On prend du temps pour soi cette journée-là et on prend du temps pour revendiquer et réfléchir à ce qui se passe dans cette société. Et de comment est-ce qu'on va construire cette lutte? On l'a dit au début, comment on la construit sur toute l'année?
Alors, je rappelle, Violette, vous êtes co-secrétaire de l'Union syndicale solidaire Paris. Jusqu'à quel point les syndicats prennent en main ces questions? Comment ça se fait que, c'est vrai, il y a des journées, des trucs ponctuels, mais au quotidien. Et qu'est-ce qu'on fait avec les camarades masculins? Parce que ça concerne tous les travailleurs, tout ça.
Voilà, ils sont partie prenante, parce que quand on gagne des droits pour les femmes, on gagne des droits pour l'ensemble des salariés. Et par ailleurs, voilà, ce qu'on appelle des alliés, mais ils sont partie prenante de ces luttes et ils nous aident à les construire. Enfin, c'est le syndicat qui construit cette lutte au quotidien, qui intervient sur ces questions au quotidien. Alors après, forcément, quand on est un homme, il y a des questions qu'on se pose pas trop. On se pose pas trop de savoir s'il y a des tampons ou des serviettes disponibles dans les toilettes de l'entreprise. Bon. Voilà, mais ça les empêche pas d'être dans la lutte avec nous et de revendiquer, parce qu'ils sont bien conscients que si on améliore les salaires, on améliore les salaires aussi pour tout le monde. Quand on revalorise des métiers, on les revalorise pour tout le monde. Quand on améliore l'éducation et la santé, c'est pour tout le monde. Donc ils ont tout le monde a intérêt à ce qu'on fasse avancer les droits des femmes.
Alors on dit que.
Et par ailleurs, on disait juste sur les syndicats. Donc c'est une question qu'on prend en charge toute l'année, hein. Mais la question du 8 mars permet une certaine visibilité là-dessus. Et donc jusqu'à présent, la grève féministe, elle était portée par Solidaire, la CGT, la FSU. Et cette année, il y a aussi la CFDT et l'UNSA qui portent la question de la grève féministe. Donc on voit bien que cette question-là, elle évolue. Enfin, elle est de plus en plus importante et prégnante, et que de plus en plus de syndicats la prennent en charge.
Et d'ailleurs, il y a des dizaines d'associations qui ont lancé l'appel à cette grève.
Oui, on est, je crois qu'il y a plus de 60 associations féministes qui ont signé au niveau de la CFDT. J'arrive plus à suivre, on en a tout le temps. Mmh. Des associations aussi qui ne sont pas forcément féministes, mais qui se reconnaissent dans cette lutte-là. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait la signature de droit au logement, qui se reconnaît dans cette lutte-là, parce que la question de la précarité touche particulièrement les femmes, donc ils sont partie prenante de cette lutte. On a les syndicats donc que je vous ai cités, partie, mais c'est vraiment un appel très large, très majoritaire, et ça fait plusieurs années qu'on le porte, et cette année on se rend bien compte que l'hypocrisie du gouvernement commence à un peu énerver tout le monde, et que on a bon espoir que la lutte paye et que fonctionne. Mais
Ouais. Violette, je vous remercie. Donc,
merci à vous.
Pour davantage d'infos, www.grèvefeministe.fr pour avoir tous les détails. Et au niveau des manifestations, il va y en avoir un peu partout, je suppose. Et à Paris.
Il y en a un peu partout en France. Vous avez tous les rendez-vous sur le site. Tous les rendez-vous, les différents contacts si vous voulez investir. Et oui, effectivement, sur Paris, on aura une manifestation qui commencera à 14h à Place Gambetta. Donc pourquoi la place Gambetta? Parce que c'est juste à côté de l'hôpital Tenon, qui a un CIVG qui est en danger et une maternité qui est en danger aussi. Et en plus, sur la question des violences sexistes et sexuelles, c'est là où exerce toujours le professeur Daraï, alors qu'il a plusieurs dizaines de plaintes pour viol. Mais l'administration hospitalière de la PHP considère qu'il a toujours le droit d'exercer dans cet hôpital. Voilà, donc c'est pour vous, ça nous semblait significatif au vu de ce qu'on a dit là sur la question du réarmement. Donc on n'est pas des poules pondeuses et on veut des conditions de soins correctes, des conditions de santé, des conditions pour le droit à l'avortement, mais aussi de la maternité correcte, et de sanctionner, de ne pas pouvoir laisser des gens qui sont accusés de viol par plusieurs dizaines de femmes de pouvoir encore exercer dans cet hôpital.
Violette, merci, bon vent, bon merci vent pour ce 8 mars, merci.
Merci beaucoup, au revoir.
Et on revient en direct, passage à niveau, à votre compagnie ce dimanche 25 février. Et que tu te portes bien. Eh bien, tu as commencé dans une radio, Radio Dragon plus exactement, et bientôt ça va devenir une pièce de théâtre, ça va aller sur scène. Et avec nous pour nous parler de ce projet théâtral, hein, parce que le reste existe déjà. Léa Promaya, bonjour et merci d'être à Radio Alpha.
Bonjour Arthur.
Merci. Alors, vous êtes documentaliste et réalisatrice. Alors, peut-être le point de départ. C'est vrai que c'était une trouvaille dans une rue de Lisbonne. Expliquez-nous.
Oui, absolument. Je suis documentariste avec un R et je fais des documentaires radiophoniques. Mmh. Et j'ai trouvé par hasard, ou parfois on peut se dire qu'il n'y a pas de hasard, avec une amie en 2009, ça date déjà de quelques années, des lettres qui étaient dans une poubelle éventrée dans une rue du Bairro Alto à Lisbonne. Et en fait, c'était pas tout à fait des lettres, il y avait des lettres et des aérogrammes qui sont des lettres enveloppes qui datent de la guerre coloniale et qui ont été développées par le Mouvement National des Femmes. Et à l'époque, des milliers de femmes écrivaient à des soldats qui étaient partis à la guerre coloniale, et c'est le cas d'une femme qui avait écrit toutes ces lettres qui se sont retrouvées jetées.
Voilà, on appelait ça les marraines madrines de guerre. Alors, ces fameux aérogrammes, justement, c'était un soldat qui était au Mozambique, ces lettres, entre guillemets, bon, ça date entre 1969 et début 1972, c'est ça?
Absolument, ouais. Mmh. Ils se sont écrits, en fait, c'est les lettres de deux personnes seulement, d'un soldat et de sa marraine de guerre, qui étaient, avant d'être soldat et marraine de guerre à cause du contexte, ils étaient déjà fiancés. Mmh. Et lui, il était au Mozambique, dans une zone très très isolée au nord du Mozambique, et elle était à Lisbonne, et voilà, ces lettres sont les lettres de ces deux personnes, et il y en a environ 600, sauf qu'elles sont déchirées par la moitié, du coup, pour y avoir accès, il faut y passer un certain moment.
Alors, est-ce qu'on peut, tirer des conclusions, des analyses, déjà, bon, quels étaient les rapports entre les hommes et les femmes, ces fameuses marraines de guerre, entre guillemets, étaient des fiancées aussi, qu'est-ce qu'on peut extraire du contenu de ces lettres?
Ces lettres, c'est des lettres ce sont les lettres de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, de Zeningen, on dirait peut-être en portugais. Et elles racontent énormément de choses. Elles racontent comment le lien se crée entre deux fiancés éloignés à cette époque. Elles racontent beaucoup aussi sur la manière d'être en lien entre un homme et une femme dans une relation amoureuse à cette période-là. C'est, en tout cas, dans ce couple en particulier, c'est très, très traditionnel, un petit peu à l'ancienne. Et puis, ça ne parle pas beaucoup de politique, parce qu'à l'époque, il y avait quand même la censure, il y avait la PIDE, on ne pouvait pas dire tout ce qu'on voulait. Et du coup, de manière générale, les personnes qui écrivaient ces lettres savaient qu'elles pouvaient être ouvertes. Du coup, on n'a pas affaire à des révolutionnaires du tout, mais voilà, les critiques du régime, elles apparaissent pas, sauf à quelques reprises, mais même pour ça, il aurait pu être fusillé, ce soldat. Du coup, il n'y a pas grand-chose à ce sujet. Et sinon, ça reste les lettres de deux personnes seulement. Du coup, ça ne raconte que ce que eux vivent et à cette période.
Ils ressentent.
Dans ce déchirement, dans ce déchirement d'être loin de leur, de la femme de sa vie ou de l'homme de sa vie.
Alors, j'ai lu quelque part, Joé, et que tout te porte bien, c'est réveiller une mémoire. Finalement, c'est une période qui n'a jamais été racontée. C'est vrai que, bon, il n'y a pas que le Portugal, hein, en France aussi, toutes les guerres coloniales, on a du mal à en parler. Donc, le fait de mettre en scène, dans une salle, ces lettres, c'est... histoire de revenir à la mémoire, parce que du passé, c'est le passé qui nous fait comprendre le présent et préparer le futur.
Ouais, moi j'ai été très surprise. En fait, j'ai commencé à travailler sur ces lettres, à noter aussi quand même que j'ai retrouvé la marraine de guerre qui les a écrites, le soldat ayant. Il est décédé dans les années 2000. Mais. En gros, ce qui m'a surprise en tant que personne qui n'a rien à voir avec la culture portugaise à la base, c'est de réaliser que raconter cette histoire, ça fait parler les gens, en fait. Et j'ai été très surprise de voir à quel point on n'en parle pas tant que ça. Alors, j'imagine certaines raisons. Moi, je suis pas historienne, hein, je suis documentariste et cette analyse approfondie, je la fais que en partie. Mais on ne parle pas des marraines de guerre. Pourquoi? Peut-être parce que c'est l'histoire des femmes, parce que l'histoire est principalement racontée peut-être par ce qui s'est passé au niveau du pouvoir dans la société, mais la part des femmes est moins racontée quand même. Du coup, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, ça touche à une période traumatique. Les soldats qui sont partis là-bas, il y en a beaucoup qui sont revenus avec des syndromes post-traumatiques. Ça a aussi beaucoup marqué les esprits, y compris au Portugal. Il y a eu beaucoup de souffrances dans la séparation, etc. Il y a aussi eu des atrocités de commises. Enfin, c'est pas une période sur laquelle on revient avec une gaieté de cœur. Et comme ça parle tout de même d'une histoire d'amour et que ça rappelle toutes ces correspondances qui ont existé et qui amenaient de la joie dans le quotidien de toutes parts, du côté des femmes et des familles au Portugal et des soldats partis à la guerre. Eh bien, je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, à chaque fois que on a eu des présentations publiques, parce que là, on passe à une nouvelle forme qui va être sur scène avec une comédienne sur scène qui interprétera cette amoureuse, les présentations radio qu'on a déjà faites, elles ont toujours inclut quelqu'un qui a vécu cette période, soit un déserteur, soit un vétéran, soit une marraine de guerre qui se met à parler. Et c'est extraordinaire. Il y a aussi des petits-enfants ou des enfants qui disent « Ah, mais moi, mon père m'a montré des photos de serpents qu'il a prises en Angola, mais il n'a jamais rien dit de plus sur la guerre coloniale. » Et en fait, ça génère des choses au sein même des familles qui sont concernées.
Alors justement, ces présentations, émissions radio, des soirées publiques, alors tout ça via Radio Dragon, hein, il faut lui reconnaître cette importance. Alors, dans les Alpes, Alpes du Sud, hein, à Lisbonne, ouais. À Luxembourg-Ville et à Grenoble, à Lisbonne, dans quel contexte?
À Lisbonne, on a parlé de ce travail, on a collaboré avec une belle collaboration entre une toute petite radio associative de montagne en France, Radio Dragon, et Antenna Deutsch de la RTP, la radio nationale. On a collaboré sur une présentation publique et c'était à l'Institut français.
Ah d'accord, à Lisbonne alors. À Lisbonne, oui, exactement, ouais. Institut français. Alors justement, passons à la scène. Donc vous avez besoin de partenaires, vous avez besoin déjà de trouver des salles et pas seulement. Quelles sont vos demandes actuellement?
Bon, on a envie de partager ce travail, c'est-à-dire que après des années à décortiquer ces lettres, à faire tout un travail avec des volontaires, pour les découvrir, pour recoller les lettres, et aussi avec des universités et des traducteurs pour traduire les lettres, etc. Là, il y a une matière qui ressort, et à partir d'une forme qui était à la base radio, j'ai travaillé avec une comédienne et un régisseur pour faire une forme scénique qui est radio-scénique, parce qu'il y a aussi la présence du son dans ce qu'on partage. Et aujourd'hui, on souhaite présenter ce travail pour faire connaître cette partie de l'histoire, pour faire mieux connaître cette partie de l'histoire et du Portugal en France, parce qu'elle est quand même super mal connue. Et puis aussi faire écho avec le parcours de toutes ces personnes qui soit n'en parlent pas, soit le vivent, mais n'en ont jamais vraiment, enfin, n'y ont pas prêté attention, toutes ces femmes qui racontent pas leur histoire. Et du coup, on a envie, ouais, on a envie d'être programmées dans des salles, dans les lieux culturels, dans des médiathèques, enfin, quiconque aurait envie un petit peu de partager avec une manière, une matière sensible, qu'est cette correspondance amoureuse, cette partie de l'histoire, et ben, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire.
Voilà,
et on aime bien aussi proposer l'échange aussi avec les gens qui viennent nous voir, que ce soit des gens qui découvrent complètement cette période salazariste, ou alors des personnes qui l'ont vécu encore mieux, qui vont apporter leur pierre à tous ces témoignages, ça nous plaît beaucoup.
Voilà, d'autant plus qu'on va célébrer le 50e anniversaire de la révision d'Isaïe. Alors, un contact, justement, pour ceux qui pourraient être intéressés. Bon, entre autres, je pense ici à la Maison du Portugal, à la Cité Universitaire, mais pas seulement. Comment vous contactez, Léa?
Il y a deux moyens. Vous pouvez me contacter à lea@leapromaja.net. Je ne sais pas si vous pourrez le mettre sur votre page. C'est leapromaja.net. Et sinon, via Radio Dragon, c'est Radio Dragon, tout attaché, @poivron, comme ce qu'on met dans la ratatouille, au singulier.
Comme la ratatouille, j'adore ça. À 7h06, ça tombe bien.
C'est exactement le moment. Ouais, c'est un serveur indépendant, Radio Dragon est hébergé sur un serveur indépendant qui s'appelle Poivron.
Léa, muito obrigado, porque fala um bocadinho português também, não fala?
Claro, eu não poderia entender todas essas cartas se eu não tivesse a possibilidade de entender o português. Uhum. Mas como podem ouvir, eu aprendi no Brasil.
Então, o sotaque, o português falado no Brasil é musical, é um bocadinho como do sul da França, é a mesma coisa. Léa, Promaya, merci, bon vent, et on va suivre de près votre projet, que soit puisse être mis en scène dans une salle et fait donner nous des nouvelles de comment les choses avancent.
Ok, muito prazer. Podem também seguir a página da Léa Promaya na Facebook, tem também Rádio Dragão. Uhum. Tem um site, Rádio Dragão, emissão e que tu te portes bien. Se vocês querem pôr esses dados, assim as pessoas vão poder, os ouvintes vão poder consultar mais. E muito obrigada pelo convite, Arthur.
Obrigado, Léa. Il faut dire que vous êtes une bretonne. Bon, c'est super. Bon, il y a quelque chose qui nous ressemble, entre autres, hein, c'est la mer aussi. C'est l'océan Atlantique. Bon, moi, je suis né au bord de la mer, mais enfin, ça n'a rien à voir. Bon, merci, Léa, et bon vent, alors, bon vent pour ce projet. Merci.
Merci,
bon.
Merci beaucoup. Bon. Muito obrigada. Ciao.
E nós estamos a aproximar-nos do final da primeira hora, lembro, passagem a nível com redifusão na noite, terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast.
De nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E hoje, domingo, dia 25 de fevereiro, estamos na vossa companhia e não se esqueçam a emissão com o difusão na noite da terça para a quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. La pauvreté, histoire, representation et art, colloque du Réseau International des études de la présence, 27 février, Université de Paris-Nanterre, de 28 février, Maison de Portugal, cité universitaire. Grâce à Chantz, bonjour et merci d'être là.
Bonjour Ertour, merci pour toujours donner des informations sur notre travail.
C'est important parce que c'est important pour tout le monde. Alors, il faut peut-être, quand on parle de ce colloque, il faut l'insérer dans quelque chose qui se passe parce que j'ai pas parlé de Réseau International d'études de la présence. Et qu'est-ce que c'est exactement? C'est un collectif, c'est ça?
C'est un collectif qui est coordonné par Gilbert Wickle, qui est à l'université du Rio Grande do Sul et qui justement travaille sur ces questions en lien avec la présence. Surtout, il est la Red International de Studios de Présence. C'est lié en fait à un travail.
Grâce à Chantz.
Sur les publics en difficulté. Mmh. Et donc, nous sommes à peu près une quarantaine de chercheurs de divers pays, donc des divers continents. Et donc, certains seront présents au colloque ces deux jours-là, mais cette fois avec l'idée de réfléchir sur la question de la pauvreté et pas seulement décrire les pauvres. Voilà, il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit de réfléchir à l'intérieur aussi de cette problématique, parce que certains des chercheurs sont des intervenants sur le territoire, et donc ils travaillent avec ces personnes, donc ils vont vous raconter un peu leur travail, et d'autre part aussi ce qu'on appelle entre parenthèses les pauvres, ce ne sont pas des personnes invisibles, même si dans la rue on les voit, on dirait un tas de chiffons et on les regarde même pas. Mmh. Ces personnes-là, elles ont une vie, elles ont une existence, elles ont des souhaits, des désirs, et souvent aussi elles ont des activités dont on ne parle même pas. Et donc c'est cela aussi que nous allons poser lors de ce colloque et les différentes pratiques des personnes qui seront là, des chercheurs et aussi des artistes chercheurs surtout.
Mmh. Alors finalement c'est histoire de analyser l'impact que les activités artistiques ont sur la vie des personnes en situation de pauvreté. L'idée aussi c'est qu'à la fin de tout ça, tirer des conclusions et de définir des nouvelles politiques pour combattre la pauvreté. Donc il y a un objectif bien concret.
Oui, très concret, parce qu'en fait, au fil de nos pratiques, nous par exemple, parlons de comment je vais présenter, je vais parler de la question migratoire, parce qu'on sait bien que la question migratoire, elle est liée à la base, surtout à la question de la pauvreté, puisque les gens, la plupart du temps, ils quittent les lieux où ils vivent pour aller mieux gagner leur vie ailleurs, et on sait les difficultés qu'ils traversent. Donc, c'est à la fois cela, c'est donner, montrer aussi autrement. C'est-à-dire, c'est donner une vraie existence concrète et réelle pour qu'on les voit, pour qu'on en parle, pour qu'on discute avec ces personnes et nous-mêmes aussi, parce que voilà, peut-être aussi certains d'entre nous ont déjà fait partie de ces milieux-là et peut-être on va y retourner. On ne sait pas. Le monde, il n'est pas tout droit, n'est-ce pas?
Alors, quand on parle de la science, on dit que la science souvent elle est éloignée des réalités, parce que la réalité effectivement qu'on les gens qui sont en grande pauvreté, qui sont pauvres tout court, bon, je sais pas, il y a la sémantique commence à bien faire, c'est le cas de le dire. Justement, c'est qu'il faut tenir compte des gens à qui on s'adresse, comment on s'adresse. Il y a des problèmes éthiques et pas seulement dans tout ça.
C'est ça. Il y a la question aussi d'une certaine morale. Il ne faut pas voir les personnes comme des cas qu'on observe comme des rats de laboratoire. Il y a une morale à avoir. Ces personnes, elles sont des individus, des citoyens, et il faut pouvoir leur donner la visibilité et la possibilité aussi de prendre la parole. Et c'est dans ce cadre-là, on va recevoir Guillaume Leblanc, qui est probablement en France l'un des plus grands philosophes et sociologues en lien avec ces problématiques, et les membres de l'Institut de France, l'Institut universitaire de France, et par exemple des titres comme la solidarité des éprouvés pour une histoire politique de la pauvreté, il y a bien le mot politique, donc ça c'est un de ses derniers livres, et c'est très important de voir que, puis aussi, comme tu le disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'être pauvre, où est-ce que ça commence, il faut gagner combien, il faut rien gagner du tout, il faut, voilà, il y a tout cela aussi dont il va falloir, sur quoi on va pouvoir aussi réfléchir, et savoir aussi quel est le rapport qu'ont ces personnes-là avec la question des arts, est-ce qu'ils pratiquent, est-ce qu'ils peuvent aller voir, et les spectacles qui parlent de ces questions-là, qu'est-ce qu'ils ont un impact sur leur vie, tout ça on va en discuter.
Oui, parce que bon, il y a des gens qui travaillent et qui vivent dans des voitures que carrément sont sans domicile. Et d'ailleurs, quand on parle sans domicile fixe, faut-il encore avoir un de temps en temps. Mais enfin, moi, j'ai l'habitude de dire sans domicile tout court. Bon, mais enfin, alors justement, comment le faire? Bon, c'est bien beau la danse, le théâtre, la musique, les concerts, mais comment faire après dans le concret, dans la vie réelle, retirer cette grande partie? En France, il y a des millions de gens qui vivent en situation de pauvreté. Comment faire articuler les deux choses? Comment faire des spectacles et de toucher justement les gens qui sont dans la pauvreté?
Parmi nous, il y a des personnes qui travaillent dans des communautés, des personnes qui sont qui sont dans des situations vraiment de pauvreté extrême, et qui donc travaillent avec eux sur des ateliers. Ils donnent à voir ensuite, ils créent des éléments spectaculaires qu'ils présentent. Et ça donne à voir autrement aussi. C'est pas seulement les pauvres auxquels on ferait l'aumône. Ces personnes-là, elles ont aussi des compétences. Donc, c'est la possibilité aussi de faire en sorte qu'ils puissent aussi exercer, se faire plaisir aussi. Vous voyez, c'est pas seulement toujours le pauvre, il faudrait lui donner, il faudrait qu'il ferme sa bouche. Et puis, il faudrait lui donner seulement pour certaines choses. Hein. Il n'a pas le droit de choisir ce qu'il doit faire avec ce qu'on lui donne. Donc, il y a toutes ces questions-là. Et aussi, vraiment, de donner à voir, c'est-à-dire que ne pas rester seulement sur des choses qui seraient dans des coins cachés. C'est très important de pouvoir... c'est une façon de résister aussi, de montrer de façon créative aussi la situation dans laquelle on est.
Et d'ailleurs, bon, je prends le cinéma comme exemple, hein, ce qui est un certain nombre de réalisateurs, même des productions, justement, des gens qui sont RSA, etc., ils leur donnent une formation, c'est-à-dire, ils les mettent les mains à la pâte, et finalement, ça les aide d'une part, bon, de s'élargir un peu, de s'échapper un peu de leur situation, mais en même temps, de leur donner des perspectives, pourquoi pas avoir envie d'être monteur, d'être ceci ou cela.
C'est ça, et puis surtout de penser à d'autres issues, de ne pas se retrouver aussi que dans des sous-métiers, leur donner vraiment la possibilité aussi de s'élargir, d'avoir envie aussi de se faire plaisir dans quelque chose peut-être qu'ils ont envie de faire aussi, tout cela quoi, aussi par plaisir et par goût, c'est-à-dire que c'est des choses, le mot plaisir a disparu hein, pour la plupart du temps pour ces personnes, donc c'est très très important. Et d'ailleurs ça me gêne quand je dis ces personnes parce que j'ai l'impression de les mettre loin, et ce n'est pas ça, c'est nous-mêmes, c'est tout notre corps social qui est touché, donc je devrais dire nous, voilà, même si moi je suis privilégiée, j'ai un toit au-dessus de ma tête.
Oui, d'ailleurs il y a des gens qui disent ces gens-là.
Ah, bon, mais enfin,
c'est notre affaire. Alors, il y a, on ne peut pas détailler tout le programme. Le mieux après, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, bien entendu. Mais il y a une table ronde hein, le 28, donc ça sera déjà à la Maison du Portugal, c'était universitaire. Oui. Négritude, pauvreté, performance. Là, il y a une question aussi de couleur de peau. Malheureusement, ça fait partie aussi, les gens sont stigmatisés. Parce qu'ils sont pas blancs, parce qu'ils sont pas ceci, ils sont pas cela.
Oui, bien sûr. Ben, ça accentue. Alors, si on est une femme, voilà. Alors, si on est une femme dans la rue, c'est plus difficile. Si on est une femme noire, c'est encore plus difficile. Enfin, on peut rajouter, hein, des choses comme ça. Et évidemment, oui, c'est beaucoup plus difficile. Tout ce qui est déjà regardé de côté sera vraiment là, mis au rebut. Et donc, la question du colonial et du post-colonial, là, elle est carrément tragique, hein. Donc, on sait très bien. De la même façon que l'on sait qu'un enfant qui vient de la DAS ou qui a été déjà abandonné, il y a un gros pourcentage des personnes dont on dit qu'ils sont sans domicile fixe qui viennent de cela. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui vient de très loin. Il y a une sorte de fil qui commence très tôt et la société ne permet pas de contrarier cette espèce de synergie négative. Hein, voilà. Donc c'est un peu voilà. Je pense que le colloque pourra pointer ces moments-là où ça coince. On ne va pas trouver de solution, bien sûr. Nous, on n'est pas des...
En tout cas, rechercher des pistes.
C'est ça, chercher des pistes et aussi donner à voir. Nous, en fait, et aussi questionner profondément ces concepts. Voilà, pour que, avec un respect pour les personnes, parce que souvent, c'est méprisé. Souvent, c'est, voilà, on regarde de haut et on a l'impression qu'on est très gentil parce qu'on donne un peu d'argent et voilà. Donc là, c'est vraiment la question morale aussi, éthique aussi. Comment parler aussi avec ces personnes?
Et être citoyenne, une action citoyenne tout court. Je me souviens maintenant d'une chanson de Monsieur Aznavour. Il disait, je ne me rappelle plus exactement des paroles, mais enfin, on dirait qu'on se dans l'œil, la misère, ça passe mieux. Bon, on rigole. Ouais. Mais ça n'empêche que les pauvres... Moi, je suis né dans un quartier pauvre, je sais de quoi je parle, mais on riait, on chantait, on dansait. Donc, on avait notre monde à nous. Et ça, on dirait que les experts, j'adore les experts, moi, je les adore, mais on dirait qu'ils tiennent pas compte que ce qu'on appelle les pauvres sont des êtres humains, mais ils ont une vie aussi parallèle. Alors, comment lier les deux? Comment prendre justement ce qu'il y a de bon et des choses merveilleuses qui se passent? Et là, je pense au quartier de banlieue. On les stigmatise, mais comment justement mettre en valeur toutes ces richesses qui existent sur place?
C'est ça. Il y a tout un réseau associatif qui, d'ailleurs, tient pour beaucoup nos sociétés. Il y a un réseau associatif qui compense ce que l'État ne fait pas. Donc, qui est là, il y a des activités, il y a des ateliers. Souvent, des enfants qui ont des grosses difficultés chez eux, qui viennent là et qui peuvent avoir de la liberté pour pouvoir faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement. Et aussi, on crée des spectacles, on crée des choses aussi avec ces personnes-là. Elles ne sont pas mortes, elles sont vivantes et elles ont des choses à dire. Et parfois, par le biais de l'art, eh bien, au-delà des mots, ça permet d'aller beaucoup plus loin, ça permet aussi de libérer la parole, de libérer le corps, et c'est aussi cela que nous souhaitons montrer.
Alors, grâce à toi, je rappelle, fondatrice de Kaela, et là, c'est très important, le corps. Le corps a une grande importance, et justement, si on parle de théâtre, c'est là que les jeunes se rendent compte qu'ils peuvent parler, qu'ils osent parler même avec son corps, et la voix, on dirait qu'ils s'épanouissent complètement. C'est une sacrée école, le théâtre.
Oui, c'est une école, et puis nous, on la conçoit en plus avec en bilingue ou en plurilingue, c'est-à-dire que c'est très très important de vraiment donner la possibilité de ne pas mépriser la langue que l'on parle chez soi, ou d'avoir des registres de langue méprisées. C'est très important de jouer avec tout ça, au sens propre et figuré, et donc le théâtre permet cela, il permet de donner une ouverture physique, aussi de donner plein corps et pleine voix, je dirais, à ce que l'on est profondément, laisser sortir les choses. Et ça, on le travaille, c'est vraiment très gratifiant pour nous qui le faisons, mais aussi il y a vraiment un vrai échange. Moi, je vois aussi bien à l'université qu'avec ma compagnie, c'est vraiment très, très enrichissant tout le temps, et c'est très différent selon les personnes avec lesquelles nous travaillons, parce qu'ils viennent un peu de partout, pas seulement de France, hein. Donc, évidemment, c'est un lieu, probablement, d'échange, de toutes les possibilités pour moi, le théâtre.
Alors, la première table ronde, ça sera à 14h30, et là, je parle au 27, Université de Nanterre, et on va parler d'artistes en habit de chercheuse, faire corps avec le sujet de la compagnie de théâtre Kaela, représentée d'immigration portugaise depuis 40 ans. Mais entre-temps, et à ce sujet, on a déjà avec nous Anne-Isabelle Freitas. Anne-Isabelle Freitas, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. Olha, precisamente, des années noires et blancs aux années miroirs, 40 ans de Kaela. C'est un documentaire de 30 minutes. Justement, on parle de théâtre, on parle de tout ça. Et alors, ces 30 minutes, je sais que résumer 40 ans en 30 minutes, c'est pas évident, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon de ces 30 minutes?
Donc, ce sont 30 minutes collaboratives. Ma partie de travail était vraiment juste de faire une immersion dans les archives de la compagnie Kaela. Et c'est une conversation. C'est une conversation entre Graça de Chant, qui est ici avec nous, et Isabel Vieira, les deux fondatrices de la compagnie, et qui parlent et réfléchissent un peu sur leur propre histoire, sur les messages très forts de la compagnie, sur le partage, et c'est ça, c'est peut-être même plus que 40 ans en 30 minutes, mais avec un regard intérieur, et c'est la joie aussi un peu de théâtre de ce travail-là.
Alors, justement, un petit peu avant, 16h30, grâce à Change, et là, ça sera à la Maison du Portugal. J'ai dit, performance, libérer la parole sous les traces d'une compagnie théâtrale au chemin croisé entre le théâtre et migration. Alors, le nom de la première pièce, ça vaut la peine de rappeler les titres de la première, deuxième pièce, parce que là, vraiment, on est plein dedans.
Oui, c'est Sud Express.
Voilà, oui. Le bien nommé qui n'existe plus. Mais c'est pas ouais. Pire, hein, c'est pas pire. Enfin, bon, bref.
Non, c'est surtout ce que je déplore, c'est que à la gare d'Austerlitz, il y a rien sur le fait que cette gare a été pendant des dizaines d'années le lieu d'où partaient et arrivaient soit on partait pour aller en vacances, mais où sont arrivés, on débarquait beaucoup de Portugais pour émigrer à Paris. Hein.
Mmh. Ben, voilà. Moi, je suis passé par là. Hein. Quand je suis arrivé, alors pour trouver le et à l'époque, il y en avait quelque chose de bien dans le métro. Bon, ben, je pense que Isabelle n'a pas connu ça. Isabelle Fred, c'est que à sortir de la gare, bon, on avait un panneau avec toutes les stations de métro et on avait des petits boutons et ça s'allumait. Quelque chose d'extraordinaire.
Oui. Ouais, si je peux me permettre, j'aimerais beaucoup dire aussi que le film d'Isabelle, il est extraordinaire parce que elle est artiste, elle est réalisatrice, elle est aussi artiste plasticienne, et donc elle est partie des archives de la compagnie, qu'on a beaucoup de photos, beaucoup de documents. Elle a retravaillé des images d'archives qui parfois n'étaient pas d'ailleurs de très bonne qualité parce que toutes ces choses-là, des fois, on les conserve mal. Mmh. Et donc elle a fait vraiment un vrai objet artistique aussi qui est très beau, qui donne à voir, qui pose la question aussi des archives et de la mémoire, ce qui normalement ne se transcrit pas, puisque le théâtre, une fois qu'il est joué, il est terminé, il a disparu. Et elle a donné vraiment là quelque chose de très fort, je trouve, en ces temps aussi où il est important de rappeler ces questions de traces et de mémoire. Et elle a fait quelque chose de vraiment, je lui en suis très reconnaissante.
Alors, Anne-Isabelle Freitas, finalement, cette rétrospective de 40 ans de Kaela, en filigrane, il y a un petit peu l'histoire de l'immigration portugaise, son évolution et tout ça, non?
Oui, bien sûr, il y en a un peu. Donc, le travail que j'ai fait, c'est un travail de raccord et aussi éloignement entre l'image et la parole. La prise de parole pour que entre cet étroitement et éloignement puisse avoir un peu la pensée et pour qu'on puisse voyager dedans. Donc entre les images, voyager dans les photographies, il y a des registres qui sont un peu plus sur le moment, mais il y a aussi des photographies de grands photographes qui ont travaillé avec la compagnie. Donc il y a une certaine beauté aussi dans ces archives. Et il y a aussi le passage du temps. On voit dans les tenues, on voit dans le public, on voit aussi dans le support lui-même des photographies. On passe de l'argentique un peu au numérique. On ajoute un petit peu de vidéo, un petit peu de musique. Donc ça prend du noir et blanc à la couleur. Et donc pour cette question de l'histoire de l'immigration, je pense qu'elle est surtout dans le travail de Grâce à Isabelle. Donc elle est surtout dans le travail de la compagnie, dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles avaient besoin de dire dans les années 80-90, et ce que en miroir elles ont fait un peu plus tard. Avec ses étudiants, avec les membres de la compagnie et avec les personnes de Lisbonne aussi qui rentrent un petit peu dans toute cette histoire.
Grâce à Tchant, je me rappelle d'avoir vu la représentation, entre autres, pas trop loin d'ici de la radio, hein, parce que c'était au lac de Créteil. On était au bord de l'eau. Oui. Justement, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé dans le sens du terme, c'est la condition de la femme immigrée. Ça, je pense que ça a été une des. C'est pas pour rien que ces deux fondatrices qui ont créé Kaela. Donc, ça a toujours été une préoccupation de la compagnie.
Oui, parce qu'en fait, quand on parle de migrants, si on parle des femmes, c'est toujours la femme du migrant. On ne la considère pas comme un sujet à part entière, en fait. Et ça, c'est tout le temps. Et donc, nous, c'était très important. Il y avait aussi des travailler avec nous, mais les pauvres, ils ont été très vite débordés. Et donc, on a surtout joué, en fait, des scènes. Par exemple, Sud Express. Et là, d'ailleurs, je voudrais dire que mercredi, Isabelle et moi, on rejouera certaines scènes de Sud Express. Donc, si vous souhaitez venir nous voir, ce serait intéressant, peut-être. Et donc, mais ce qui est très important, c'est la femme au travail, on montrait aussi la condition de la femme au travail, la femme aussi aux différents âges, c'est-à-dire il y a dans des jeunes aussi qui ont des problèmes de papier, des problèmes avec la préfecture, enfin on montre tout ça, et on voit aussi au Portugal, la situation au Portugal ou donc au consulat. En fait, on voit toutes ces choses-là, tous les différents moments de la vie d'une femme, en fait, ils apparaissent là, et selon les conditions aussi, parce qu'il y a bien sûr la femme de ménage, et puis il y a aussi une femme qui est une vieille dame raciste. Donc voilà, il y a tout ça, on voit tous les éclats de vie en fait d'une société. Et ce qui est très frappant, ce qui nous a beaucoup frappé, et je pense que c'est aussi le film d'Isabelle qui m'a beaucoup plus fait percuter ça davantage, c'est de se rendre compte que les points que nous montrons, nous pensions que c'était dépassé, et en fait non, nous reprenons ce que nous avons joué dans les années 80-90, et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose, parfois même peut-être pire. Et là, ça pose un problème quant à notre société. Quand même.
Voilà, chasser le naturel, il revient au galop naturel, une façon de parler. Castro Santos, je sais que vous avez des impératifs, je vais regarder encore une petite minute ou deux. Maintenant, la question, c'est Anne-Isabelle Freitas. Vous faites partie d'une autre génération, la génération suivante. Finalement, le fait d'avoir travaillé ce documentaire, je rappelle des années noires et blancs aux années miroir 40 ans de Kaila, justement, est-ce que ça vous a appris quelque chose? Est-ce que vous êtes rendu compte davantage comment c'était la vie de la communauté portugaise?
Mais bien sûr, ça m'a beaucoup appris, parce que c'est vrai qu'en arrivant, je suis déjà arrivée avec un projet de documentaire, donc avec la curiosité de comprendre comment ça se fait aujourd'hui. C'est qui est là aujourd'hui? Donc j'étais toujours à la recherche, donc j'ai découvert la compagnie un peu en étant de côté, je les ai filmés un petit peu, j'ai vu principalement le festival Parfum de Lisbonne, je les ai vus faire des performances, et aussi j'ai eu du contact avec d'autres groupes, associations à Paris, et moi-même j'ai fait un peu ce parcours parce que j'habitais à la maison de Portugal, à la cité internationale universitaire, et j'avais créé mon propre groupe de théâtre quand je suis arrivée. Le groupe était là avec Nun Fivago, et après je suis rentrée, et en effet on a créé une nouvelle chose ensemble. Donc j'ai fait mon petit chemin aujourd'hui, mais c'est ce que ce travail-là m'a appris, c'est Grassa et d'autres personnes l'ont fait dans des conditions extrêmement différentes, mais mille fois plus difficiles, avec beaucoup plus à dire que ce que j'avais à dire ici en arrivant en 2015. Donc, je pensais comprendre un petit peu en étudiant sur l'immigration portugaise en France. Mais là, c'est du concret. Ce sont des messages forts et ce sont des perspectives très personnelles. Donc, en créant des pièces de théâtre comme ceux d'Express ou Le Coup entre deux chaises, c'est rentrer dans le vivant. Et bien sûr que ça apprend, et ça me fait comprendre aussi parfois des réactions que peut-être je comprenais pas trop avant, parce qu'il y a eu une vraie évolution.
Voilà. Grâce au Tchantch, merci. Anne-Isabelle Freitas également. Donc, la pauvreté, histoire, représentation et art, un colloque. Le 27, ça sera à l'Université Paris-Nanterre, et le 28, Maison du Portugal, cité universitaire. En ce qui concerne Kaila et toute cette problématique-là dont on vient parler, ça sera à partir de 16h30 à la Maison du Portugal, etc., etc. Merci à toutes les deux. Merci. Bon vent. Et grâce à Tchantch, tu m'as bien vieilli.
Je me tais. Oh! Mais non, t'es toujours jeune.
Bon, on garde la fraîcheur d'esprit. Merci, grâce, merci Anne-Isabelle.
Merci,
à très bientôt. À bientôt, ce sera le 27 et le 28. Bien, merci. E agora vamos voltar alguns anos atrás, que foi feito, quando é que foi? Foi em 1999, que houve um referendo de autodeterminação de Timor-Leste. Este ano vai-se festejar o 25º aniversário. Na altura, mais de 80% da população votou a favor da independência. Quando chegar a essa altura, será no mês de setembro, falaremos disso com documentos sonoros da época, com Ramos Horta e não só. Ramos Horta e também Xanana Guzmão. Mas no seguimento desse referendo, houve uma repressão feroz das tropas de ocupação indonésias, basicamente das milícias a solo do governo de Jakarta. Alguns anos antes, e ainda durante a luta pela libertação nacional, a luta armada da Fretilin, o compositor Ângela Silva fez a canção que vamos ouvir agora. A voz é da Olga Ângela Silva, que teve também infeliz ideia de nos deixar alguns anos atrás.
Sempre de chapéu na mão,
namorando as cansadas que as solteiras sempre estão. Namorando as cansadas que as solteiras sempre estão.
Но tarde e sed, shash me ma boa ora. Но tarde e sed, shash me ma boa ora. Meu pai já está deitado, minha mãe deitou-se agora. Meu pai já está deitado, minha mãe deitou-se agora. Eu ia pela rua quando ouvi. Eu ia pela rua quando ouvi. Eu logo respondi. Eu logo respondi.
Quem quer bem dorme na rua à porta do seu amor. Quem quer bem dorme na rua à porta do seu amor.
Faz as pedras dançar das estrelas cobertor. Faz as pedras dançar das estrelas cobertor.
Um extrato de Cantei Alentejano, mais concretamente do CD Alentejo Ensemble, do grupo Cantadores de Paris. Carlos Balbino, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, Artur. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes.
Ora, este disco Alentejo Ensemble, 23 canções, salvo erro, bom, se a minha memória não me falha, mas este disco tem uma história, na medida em que vocês estiveram precisamente no Alentejo, trabalharam com um certo número de grupos, foi uma colaboração extraordinária, e para vocês, sobretudo para o Carlos Balbino, que criou e que esteve na origem deste Cantadores de Paris, para vocês foi também foi um grande desafio, não?
Sim, sem dúvida. Foram 16 grupos e artistas solistas convidados para fazer 19 modas, e realmente foi contactá-los e à distância tentar organizar como é que íamos fazer as canções, sendo que era o grupo de Paris que ia sempre adaptar-se, ou quase sempre adaptar-se, ao estilo do grupo e dos artistas, dos grupos e dos artistas locais. Uhum. Então, tivemos uma semana para nos encontrarmos com eles, não pudemos ver todos, porque são realmente 16 grupos e artistas, é muita gente, mas foi depois uma semana de gravação intensa, em que entrava um, saía, e depois entrava outro, e foi sempre assim durante 5 dias. Por isso foi muito intenso, foi muito formador, e deu mesmo para perceber a diferença dos estilos entre cada localidade do Alentejo.
Sim, porque vocês tiveram, bom, havia Serpa, mas não só, hein, porque havia de outras localidades. Bom, finalmente, quando se fala do Alentejo, que é uma zona árida, e mesmo a nível também da vida, porque para quem conheceu o Alentejo antes do 25 de abril de 74, sabia como é que a vida era dura, e os trabalhadores rurais, porque havia poucos camponeses, trabalhadores rurais, só tinham um salário uma parte do ano, mas no Alentejo sente-se que há uma solidariedade, as pessoas abrem as portas, é uma coisa extraordinária. O Alentejo é uma região à parte de Portugal, não?
Sim, o Alentejo para já faz um terço do país e tem por volta de 5% ou 6% da população do país, por isso há mesmo uma descompensação demográfica relativamente ao território. Antes do 25 de Abril, efetivamente, acho que Portugal inteiro vivia numa grande pobreza, principalmente as zonas rurais, não só no Alentejo, e o que se passou com a entrada na Europa em 86 foi que começou a haver uma ideia de criar grandes indústrias para o mercado europeu, por isso as grandes superintensivas começaram mais ou menos nessa altura, e o que vemos hoje em dia é que infelizmente esses trabalhos continuam a preços baixos, como eram antes do 25 de Abril, só que já não são atribuídos aos alentejanos, não é? Porque os alentejanos são portugueses, então são atribuídos a pessoas que vêm de outros países, nomeadamente da Índia, do Sri Lanka, de Bangladesh, e também da Europa de Leste, muitos romenos e moldavos. Então é essa exploração que acaba por ser até muito, muito contestada, e os alentejanos realmente, muitos deles, trabalham nas grandes cidades ou no Alentejo, perdão, ou no Algarve, quando é as épocas de turismo, ou então em Lisboa. O que mudou, entretanto, é que as ruas, as estradas estão muito melhores, ou seja, há A2 e a IP2 estão muito bem desenvolvidas, então para ir a Évora já não se leva 2 ou 3 dias, já se vai a Évora em 1 hora e meia, 2, né?
Da autoestrada, pois. Mas ao mesmo tempo há uma grande desertificação, e há a referir precisamente relativamente a esses trabalhadores imigrantes com I, muitos deles, e há casos que foram já denunciados, em princípio deverão ser julgados os responsáveis, da autêntica escravatura. Mas enfim, bom, de maneira que Portugal esquece que é um país também de imigrantes. Mas voltando a este CD Alentejo Ensemble, falemos de textos, 104 páginas, 154 páginas, assim é que é, textos, mas também ilustrações.
Sim, foi a ideia de fazer esse disco, foi então cruzar esses dois universos, o canto alentejano que vai nascendo, ou que ia nascendo na altura em Paris e que está consolidado, e o canto alentejano contemporâneo do Alentejo, ou seja, o que é que está a passar no Alentejo. Então é esse cruzamento que se ouve, né, através das pistas musicais, mas depois também há uma parte mais etnográfica em que tenta contextualizar em texto o que é que são esses grupos, o que é que eles representam, qual é a história deles, o que é que eles têm de particular em relação uns aos outros. E então há esse trabalho que foi escrito então em português por mim e traduzido pela Marie Odir, uma dos membros do nosso atelier semanal, para os franceses também terem acesso a esses textos. Por isso está em português e em francês.
Ora, já estamos, o ano 2024 já começou, já há quase 2 meses, e dois concertos que estão agendados. O primeiro, dia 1 de março, às 20 horas, Maison Portus, em Savan, departamento 77. Depois, no dia 2, vai ser no Teatro de Lanou, que tem conta número 12, Praça Bertie Albrecht, em Montreuil-sous-Bois, departamento 93. O que é que vai passar nestes dois concertos? Há uma remodelação? Há um novo... digamos, novos cantes, o que é que se vai passar?
Sim, exatamente. O que nós estamos a tentar fazer este ano, separamos os ateliês, ou seja, os workshops semanais, onde as pessoas podem aprender no seu próprio ritmo e pode demorar anos e meses, consoante a sua dedicação, e depois temos um grupo que já está numa perspectiva mais profissional. O grupo foi formado em 2016, como disse agora o Arthur, estamos em 2024, por isso o grupo está a fazer este ano 8 anos, e temos realmente cantadoras e de grande nível, nível profissional, em que podem já cantar em qualquer grupo alentejano. E o que vamos fazer então é criarmos esse grupo, esse trio, para também dar a mostrar às pessoas uma forma de fazer o canto que não é muito habitual, ou que as pessoas conhecem menos. As pessoas conhecem o canto da televisão, em que vem um grupo em que as pessoas estão todas alinhadas, vestidas em roupas folclóricas, em trajes, e cantam à capela com uma voz muito forte. O nosso objetivo é precisamente mostrar o que é que se passa no final da noite. Ou seja, no final da noite as pessoas geralmente vão para um bar, ou vão para a casa de alguém, e ficam no serão, em que até podem trazer uma guitarra, trazer um acordeão, e ficam-se a acompanhar a poucas vozes, 5, 6 vozes, que são as pessoas que cabem na sala, não é? E ficam a fazer músicas já com acompanhamento instrumental. Então é nessa perspectiva mais íntima, em que mostramos o lado íntimo do canto alentejano, que nós vamos mostrar, que vamos partilhar com o público. Por isso, na Maison Portus, estamos numa aldeia em Savan, que até está próximo de uma comunidade portuguesa aqui da região. Potocombo não está longe, e depois há outras aldeias aqui perto em que tem alguns portugueses ilusodescendentes. E a entrada é gratuita, por isso as pessoas vêm para escutar e depois ficam para conviver com a gente. No dia 2, no teatro, já tem aquela coisa de estarmos no palco, não é? Em que há luzes, mas também as entradas são à volta de 7 euros, se não me engano, ou 10 ou 7 euros. Por isso, a ideia é as pessoas também virem perceber, aqueles que vivem na zona de Montreuil, de Paris, o que é este canto alentejano íntimo. E estamos a constituir, então, uma rede de restaurantes e de bares e de outras salas de espetáculo íntimas em que a gente possa frequentemente nos produzir em público. Esta é a vantagem em relação ao grupo, o Rancho de Cantadores de Paris, que é o grupo à capela, as pessoas de pé com os trajes folclóricos. A vantagem é precisamente, por sermos menos, temos a capacidade de irmos a espaços mais pequenos, que também se adaptam às exigências dos espaços de concerto de uma grande cidade como Paris, não é? Em que vemos que é tudo muito mais reduzido, tudo mais apertadinho, mas também podemos fazer grandes momentos de canto e de partilha íntima e intimista nesses espaços.
Perfeito. É a vantagem de ser um trio, porque, bom, quando se fala de Alentejo, bom, as tabernas... é um lugar extraordinário de socialização, é uma coisa enorme, um começa a cantar, o outro não sei o quê, depois aparece mais um, e depois há toda uma fraternidade que se encontra ali, que é uma coisa extraordinária. Eu comparo isso um bocadinho com o fado que havia também antigamente em Lisboa, nas tavernas. De maneira que, bom, no que diz respeito ao dia 2, sábado, dia 2 de março, o concerto é às 18 horas, no 12 Praça Bertie Albrecht, em Montreuil-sur-Bois. Qual é o metro mais próximo, Carlos Balbino?
Pode ser, acho que é Croix de Chavaux, ou mesmo Montreuil. Aqueles que chegarem, exatamente, Mairie de Montreuil, aqueles que chegarem mais cedo, por volta das 3 horas, vamos fazer um ateliê.
Era isso que eu queria gratuito. Falar agora, pois.
Exatamente. Vamos fazer esse ateliê, ou seja, basta contactar o teatro na altura de comprar os bilhetes, ou nem precisam de comprar os bilhetes se quiserem, vêm só para o ateliê, mas é uma oportunidade de frequentar então uma sessão de canto alentejano animada connosco e também com alguns membros desse ateliê semanal que fazemos em Paris também.
Ora, Carlos Balbino, vamos olhar um bocadinho mais para a frente. Dia 8 de maio, o canto alentejano no Olympia?
Pois é. Basicamente, o que se passou é que há coisa de 2-3 anos, o Pedro Abrunhosa, no Encontro de Culturas em Serpa, que é um festival que eles fazem todos os anos, fizeram uma colaboração com o Paulo Ribeiro, que é um músico local, e o grupo coral alentejano, os Camponeses de Dias. E essa colaboração resultou muito bem, em que encontraram-se todos no palco, com a música do Pedro Brunhosa e com os arranjos do Paulo Ribeiro, com as vozes desses homens, e dos Camponeses de Dias. E então tem dado a volta a muitas salas de espetáculo nacionais e também no estrangeiro. Já passaram por Luxemburgo, já estiveram em Paris o ano passado, e quando passaram em Paris, acho que foram à Cigale, se não me engano, foram convidados então para serem programados à Olympia. E pronto, basicamente a data já saiu, quem for ao site do Olympia pode, acho que já pode reservar os seus bilhetes, mas acho que, se eu não me engano, se não for a primeira vez, é uma das raras vezes em que um grupo coral se foi produzir no Olympia. Por isso, para o canto alentejano tem um grande simbolismo, e para os Camponeses de Pias é espetacular, porque o Pedro Brunhosa, eu, em termos pessoais, fui o primeiro artista que eu vi no palco. Por isso é extremamente emocionante. Eles estão muito contentes. O Pedro Brunhosa, que eu pude entrevistar há poucos meses, também está muito, muito contente com o projeto, e diz que basicamente ele segue o grupo coral porque eles têm uma força brutal, e acho que esta fusão de géneros e de percursos é muito, muito interessante.
O fado já tinha passado pela Olímpia com a Amália, e não só, agora temos o canto alentejano, mas há que referir, precisamente antes do dia 8, o canto alentejano vai estar em Savan. Aparentemente eles vão fazer o bom cantar para o pessoal, de maneira que pode ser um bom encontro de convívio igualmente. Carlos Balbino, obrigadíssimo para já a dois encontros. Dia 1 de março às 20 horas, Maison Portus, 14, Praça de la Mairie, Departement 67, em Savan, e depois aí vai ser em Montreuil, Théâtre de Lanoux, 12, Praça Bertie Alvarez, às 15 horas, um ateliê de canto, e depois, às 8 horas, o concerto. E, bom, agora nos ficando no Alentejo, obrigado, Carlos, e aqui fica mais uma moda. Uma moda.
Obrigado, uma tudo moda. Bom.
Obrigadíssimo, até breve.
Até breve.
Yeah.
Estamos a chegar praticamente ao final deste programa Passagem Nível. Lembra, emissão com redifusão da noite de terça para quarta-feira a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E um grande obrigado ao Manuel Alexandre. E a querer lembrar-te no que diz respeito às sexas internacionais portuguesas aqui na região parisiense, as inscrições estão abertas. Começamos pelo Lycée Collège Montaigne, em Paris 6, abertas até o dia 25 de março. Depois, em Saint-Germain-en-Laye, mas não só, também em Le Pec, aí as inscrições estão abertas até o dia 8 de março, com a particularidade de que diz respeito a todos os graus de ensino. Sem esquecer também no Colégio Émile Verhaerden, em Saint-Cloud, inscrições abertas até o dia 1 de março. Neste colégio vai haver uma jornada a portas abertas, dia 16 de março. E no Liceu Alexandre Dumas, em Saint-Cloud, igualmente inscrições abertas até o dia 1 de março. Mesma data no que diz respeito ao Colégio Henri Cannes, em Brie-sur-Marne. E agora outra data, sábado, dia 2 de março, Carnaval, nem mais nem mais nem menos, queria dizer, aqui nas instalações da Rádio Alfa, na Sala Vasco da Gama, de maneira que venha bem mascarado. E entretanto, já estou passado no Miam Miam, já tenho fome. Festival da Gastronomia Portuguesa aqui na Rádio Alfa vai ser do 15 ao 24 de março. Bem-ajam. E já agora, aqui fica um recado pessoal. Thank you.